Elle était vieille, très vieille, malgré sa tournure jeunette, ainsi vue de dos sous un petit châle brun. Mais tout à fait vieille, une bonne grand-mère d'au moins 70 ans. Encore jolie, par exemple, et encore fraîche, avec les pommettes bien roses, comme certains vieillards ont le don de les conserver. Sa coiffe, très basse sur le front et sur le sommet de la tête, était composée de deux ou trois larges cornets en mousseline qui semblaient s'échapper les uns des autres et retomber sur la nuque. Sa figure vénérable s'encadrait bien dans toute cette blancheur et dans ses plis qui avaient un air religieux. Ses yeux, très doux, étaient pleins d'une bonne honnêteté. Elle n'avait plus trace de dents, plus rien. Et quand elle riait, on voyait à la place ses gencives rondes qui avaient un petit air de jeunesse. Malgré son menton, qui était devenu « en pointe de sabot », comme elle avait coutume de dire, son profil n'était pas trop gâté par les années. On devinait encore qu'il avait dû être régulier et pur comme celui des saintes d'église. Elle regardait par la fenêtre, cherchant ce qu'elle pourrait bien raconter de plus pour amuser son petit-fils. Vraiment, il n'existait pas ailleurs dans tout le pays de Paimpol une autre bonne vieille comme elle pour trouver des choses aussi drôles à dire sur les uns ou les autres ou même sur rien du tout, mais sans la moindre malice, car elle n'avait rien de mauvais dans l'âme. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G, chez Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, mais aussi quand vous le désirez, en podcast sur radio-g.fr, on se souviendra de nos grands-mères avec une ou un invité. C'est sublime une grand-mère, cette vieille beauté par elle-même ignorée, un visage strié qui dévoile quelques décennies trop vite passées, des petites mains abîmées, presque tordues, que l'on peut peut-être essayer de réparer en les caressant doucement, leur rendant un peu de l'infinie tendresse reçue enfant. « Vieille mais encore jolie », écrit Pierre Loti dans « Pêcheur d'Islande » dont je viens de lire un extrait en exorde de cet épisode. Et si le temps finalement affinait leur beauté, s'il éclaircissait nos souvenirs d'elle. C'est ce que nous allons vérifier avec notre invitée du jour, Anne Proutot, maître de conférences en littérature française, responsable académique du département Lettres modernes à l'Université catholique de l'Ouest et aussi grande spécialiste de l'œuvre d'Albert Camus. Anne Proutot a notamment coordonné un ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions Bleu Autour, intitulé « Camus chez les Justes, le Chambon sur Lignon, 1942-1943 ». Bonjour Anne, et merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de tes grands-mères ou de leurs souvenirs.
Bonjour Valentin.
Alors Anne, première question rituelle de cette émission, c'est quoi le prénom de tes grands-mères ?
Alors, mes grands-mères, l'une s'appelait Fatima et l'autre s'appelait Aline, bien que son nom de baptême était Adeline.
Alors pourquoi ce changement de prénom ?
Écoute, je ne sais pas, c'est au moment où tu me demandes les prénoms que je pense que c'est son mari peut-être l'a appelée Aline. C'était grand-mère Aline.
Il y a eu une transformation comme ça du Absolument. Prénom à l'usage.
Oui, peut-être presque un petit diminutif en fait d'Adeline.
Donc Fatima et Aline, et toi comment tu les appelais ? On les appelle pas par leur prénom, nos grand-mères, comment tu les appelais ? C'était quoi leur surnom ?
Ma grand-mère Fatima était décédée depuis bien longtemps, donc je ne l'ai jamais appelée. En revanche, Aline, je l'appelais grand-mère.
C'était grand-mère tout court ?
C'était grand-mère.
Alors parle-nous un peu d'Aline, de cette grand-mère, si tu devais la redessiner, nous dire qui elle était, est-ce que tu peux nous la décrire ?
Oui, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée. Quand je l'ai connue, j'étais l'aînée, moi, de la famille, de cette famille Roblin. Elle était déjà âgée, elle avait des cheveux blancs, des robes un peu strictes. Enfin, il y avait la robe du dimanche et les vêtements de tous les jours. Et c'était une femme qui dégageait vraiment une grande bonté, douceur. Ouais, bonté, douceur, une voix douce aussi. Et voilà, quand elle avait pas mal de rides, elle avait un bon sourire. C'était une femme discrète qui était assez, quand même assez en retrait par rapport à mon grand-père. Un peu une femme soumise. Elle était née en 1909, c'est pour dire. Et voilà, je me sentais aimée par elle. Et voilà, comme ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir. Mais
Tu emploies le mot soumise, une femme soumise. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, ça veut dire que je pense que c'est mon grand-père qui commandait la maisonnée. Et donc, elle était plutôt en retrait. Parce que, en fait, c'est quand même une femme qui avait fait des études, dans le sens, pas forcément des études très poussées, mais elle était institutrice. Et elle a travaillé, d'ailleurs, je crois, avant de se marier. Mais quand elle s'est mariée, elle a arrêté son travail. Elle était à la maison. Et c'était clair que c'était mon grand-père qui commandait le foyer. Et ensuite, on en reparlera, parce que ça fait vraiment partie de mon héritage. Mais elle aimait lire, et mon grand-père, pour lui, une femme qui lisait, c'est pas forcément une femme dangereuse, mais c'était une femme qui ne faisait rien. Voilà, lire, c'était ne rien faire. Donc,
grand-père approuvait pas cette activité-là chez elle, cette liberté.
Oui, tout à fait. Enfin, l'approuvait pas. C'était pas, tu sais, c'était des non-dits peut-être. Mais en tout cas, je sais que ma maman m'a souvent raconté que s'il entrait et que les femmes étaient en train de lire, bon bah, tu vois, qu'est-ce que vous faites? C'était forcément quelque chose qui n'était pas productif. C'est plutôt ça.
Lui, il lisait pas du tout.
Alors écoute, lui, il lisait. Enfin, il lisait. Il ne lisait pas de romans. Mais ce qui est assez émouvant, lui, il était ébéniste. C'était vraiment quelqu'un, un artiste dans son genre. Il faisait de très belles choses avec ses mains. Il avait aussi son atelier dans la maison. Et au fur et à mesure de son existence, quand il est parvenu à la retraite, il a toujours travaillé le bois et il commençait ses journées en lisant. Et il était assez fier de me dire, quand je venais le voir, et quand il a vécu seul assez longtemps après la mort de ma grand-mère, alors il prenait, donc il y avait le journal, il y avait Ouest France, et ensuite il y avait le National Geographic. Et donc il lisait 2 heures chaque matin. Et je me souviens qu'il me le disait, tu vois. Bon, j'ai lu 2 heures et commençait sa journée en lisant. Je pense qu'il avait le certificat d'études, mon grand-père. En lisant ses journées.
Il y avait cette fierté d'avoir cet exercice de lecture et de te le dire.
Absolument, oui. Une forme de culture, tu vois, National Geographic, c'était les voyages, c'était les autres pays. D'ailleurs, lui-même a beaucoup, il a voyagé, tu sais, avec des
c'était la curiosité pour le monde, l'ailleurs.
Absolument. Donc, tu vois, je ne pense pas qu'il était contre l'activité de lecture, mais c'était surtout que quand tu lisais, tu n'étais pas en train de bosser. C'était pas... Ouais.
Et alors, Aline et ton grand-père, ils habitaient où? Ça se passait où, tout ça, quand tu les voyais?
Écoute, ça se passait à Nantes. Ils habitaient Nantes, ils habitaient près de l'Erdre. Non, pas près de l'Erdre, non. Ils habitaient dans le quartier Saint-Jacques. Peut-être c'est plutôt sud Nantes, je pense, parce que d'ailleurs, tous deux étaient originaires plutôt du sud de la Loire. Et ma grand-mère était née à Vertou. Tu vois, qui est assez connu, et son père était forgeron, maître forgeron, et la grande fierté de ma grand-mère, c'était... Alors tu vois, ça parle d'elle, c'est qu'à chaque fois qu'on allait à Vertou, au cimetière, ou sur un terrain qu'ils ont eu très longtemps, où il y avait des vignes, eh bien, ma grand-mère nous disait de lever les yeux vers le clocher pour... et en disant, c'est mon père qui a fait cette croix et c'est mon père qui l'a montée lui-même. Je pense qu'il n'y a pas une seule fois où nous sommes allés à Vertou où ma grand-mère n'a pas pris le temps de nous dire, de saluer la mémoire de son père qui avait fait quelque chose de grand et de beau.
Et donc ça, c'est vraiment un souvenir aussi récurrent. Et elle vous a transmis aussi l'héritage de son papa de cette manière.
Absolument, absolument. Mais c'est fou, de toute façon, tu vois, là, au fur et à mesure que je pense à elle, je vais passer du coq à l'âne, parce qu'après, il y a des chapitres qu'on pourra approfondir. Enfin, il y en a un en particulier. Mais alors, tu vois, par exemple, elle avait des petits carnets. Et dans la voiture, elle avait un petit carnet. Et elle notait, quand il pense, c'est complètement fou. Alors, elle notait le kilomètre en partant de la maison. Et puis, on allait, par exemple, le dimanche au Jardin des Plantes à Nantes. En arrivant au Jardin des Plantes, elle notait, je crois, il y a peut-être 5 kilomètres. C'est drôle, ça me revient maintenant, là. Et puis, donc dans son petit carnet, tu avais une petite tenue des nombres de kilomètres qu'ils accomplissaient avec la voiture d'un lieu à l'autre, par exemple. Tu vois, c'est ce désir de consigner. Ou alors, dans le buffet de la cuisine, elle découpait dans les revues des phrases qui l'inspiraient. Et tu vois, ce buffet de cuisine, je ne sais pas où il est maintenant, mais c'était assez émouvant de voir ces citations. Enfin, ça, tu vois, là, vraiment, je suis bien dans la ligne de cette grand-mère, c'est-à-dire les textes qui nous font vivre, les textes qui nous inspirent. Donc ça, c'était dans ce buffet blanc de la cuisine et dans ce qu'elle découpait. D'ailleurs, elle découpait pas mal de choses hein, dans les journaux qu'il recevait. Donc tu vois, ça c'est quelque chose qui me vient maintenant. Et puis aussi ma grand-mère, alors tu vois, j'ai des images vraiment d'un temps passé. Ma grand-mère n'avait pas de machine à laver le linge quand j'étais petite, mais c'était pas par manque d'argent, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Donc elle faisait la lessive chaque semaine, c'était le lundi. Et alors là, vraiment, quand ma grand-mère nous gardait, c'était, mais tu sais, le cérémonial. Ma grand-mère était une femme de rituel. Alors, elle descendait avec ses bottes. Elle mettait, tu sais, ces vieilles blouses là, qu'avaient les grand-mères. C'est drôle, il y avait les blouses qu'elle portait. Elle descendait au sous-sol. Et là, il y avait vraiment... D'ailleurs, il ne fallait pas qu'on s'en approche parce que je pense que la lessiveuse était bouillante. Tu sais, elle s'est chauffée.
Il y avait un danger.
Un danger, certainement. Mais ça me fascinait parce que, tu sais, c'était régulier. C'était un univers de régularité chez mes grands-parents qui me faisait du bien. Et alors, elle tournait son linge, tu sais. C'était incroyable. Ça, c'était le lundi matin, jour de la lessive. Ça aussi,
on
c'est
a l'impression image. De voir une peinture, là.
Tu te rends compte, parce que là, vraiment, dans les années 70, 75, après, ils ont eu la machine à laver le linge et elle a arrêté. Mais c'était quelque chose d'assez fort aussi, comme scène. Ma grand-mère dans les vapeurs, tu sais.
Accomplissant son rituel.
Absolument.
De lessive.
De lessive.
Hebdomadaire.
Hebdomadaire, oui, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais.
Alors Anne, depuis le début de cette conversation, il y a un sujet latent là, qui vient, qui repart, c'est le lien au texte, à la littérature.
Absolument.
À la lecture. On voit que ta grand-mère, elle avait cet ancrage-là de lire, il y avait une bibliothèque, j'imagine, elle découpait des textes.
Ouais.
Raconte-nous un petit peu tes premières sensations, tes premières curiosités liées à ça, toi, l'observant lire ou allant aussi, toi, enfant, dans les textes de la bibliothèque, peut-être ?
Oui, écoute, je pense qu'elle avait une petite bibliothèque, parce qu'il n'y avait pas un grand espace accordé aux livres, mais alors elle recevait des revues. Alors bon, et maman et les frères et sœurs de maman ont été abonnés, tu sais, à ce que c'était Suzette. J'en ai quelques-uns à la maison, des revues pour enfants. Ce qui déjà, enfin c'était important. Enfin c'était, tu sais, nous, notre génération a eu d'autres revues, Pomme d'Api, toutes ces choses-là. Alors c'était la semaine de Suzette que elle abonnait les enfants. Et alors attends, parce qu'il y avait autre chose qu'elle faisait, elle reliait ces revues qu'il recevait. Toi, ça je sais pas, il faudrait que je demande à maman. J'ai la chance d'avoir mes parents. Elle reliait ces revues avec une sorte de grosse aiguille, un outil particulier, parce que tu vois, elle devait recevoir une fois par semaine, et donc après, et c'est ce que j'ai à la maison, elle allait relier l'année entière.
Pour les archiver,
les conserver.
On voit un peu aussi la rigueur et puis l'organisation dont tu parles depuis le début
et
aussi.
Et le fait que c'était important. Tu vois, parce que justement...
On ne jette pas quelque chose où il y a du texte, où il y a du savoir, de la matière écrite, on le conserve.
Absolument.
C'est précieux.
Et vraiment, ils ont gardé ça jusqu'à la fin de leur vie, puisque bon, moi, j'en ai pris un peu, maman en a pris. Et alors, surtout, elle était abonnée au Veillée des Chaumières. Pas si tu connais, Valentin.
Pas du tout.
Une revue vraiment, alors bien pensante. Ma grand-mère était une catholique. Je dirais d'ailleurs peut-être quelque chose par rapport à ça tout à l'heure. Et, alors, c'était l'éveillé des chaumières. Tout un monde, mais dans lequel j'ai baigné quand même, hein, enfant et jeune adolescente. Une revue que tu recevais, un hebdomadaire, qui était notée derrière, j'avais vu ça plus tard, revue de haute tenue littéraire et morale.
Ah, mais le mot moral.
Alors là, c'est sûr que c'était de bonne moralité. Hein. Et en fait, l'Éveillé des Chaumières, c'était aussi une maison d'édition qui tu vois, éditait des livres aussi de haute revue de bonne tenue littéraire et morale. Et donc, ça a été, tu vois, tout un ensemble qui est arrivé. Alors, donc, Les Veillées des Chaumières, c'était des feuilletons. Tu sais, c'était le feuilleton. Le feuilleton qui, tu sais, est né au 19e siècle. C'est en 1836, je crois, qu'un directeur de presse, comment il s'appelait, Émile, est-ce que c'est Desjardins, je ne sais pas, a eu cette idée fantastique de faire écrire des écrivains.
Balzac a commencé,
tout à fait, et tant d'autres. Et c'est fou comme ça boostait les journaux.
Donc là, il y avait dans cette revue-là, voilà. il y avait des feuilletons qu'on suivait au fur et à mesure.
Des nouvelles entières, des feuilletons que tu suivais sur plusieurs exemplaires. Et toute une bibliothèque. Et vraiment, je raffolais de ces textes.
Et ta grand-mère te faisait la lecture ou c'était plutôt toi ?
Non, pas du tout. Alors,
vous en parliez entre vous, feuilletons ?
Non, mais j'adorais ces Veillées des Chaumières parce que c'était, quand on y pense, tu sais, ça a participé pour moi à une ouverture au monde de la culture et de l'art. Alors voilà, tu vois bien dans quel esprit c'était fait. Il y avait toujours un tableau à la fin, sur la dernière page. Tu avais donc des histoires, des histoires d'amour, mais toujours des histoires qui, tu vois, c'était aussi informatif. Tu apprenais, tu te documentais, tu t'informais et tu rêvais à travers ces histoires. Et
on apprend beaucoup par la littérature.
Ah bien sûr, c'était là. Tu sais, c'était une des fonctions de la littérature, quoi, on pourrait dire. D'abord, le divertissement. L'ouverture d'esprit. Alors, il n'y avait rien de choquant, au contraire, donc c'était vraiment dans un certain milieu, il faut bien le dire, hein. Surtout quand tu relis ça plus tard. Voilà, c'était très bien pensant, c'est sûr. Mais je pense que pour ma grand-mère, quand je te disais qu'elle se cachait un peu pour lire Les Veillées des Chaumières, ou en tout cas, il ne fallait peut-être pas lire dans la journée. C'est lire dans la journée qui était un peu.
C'était mal vu.
Qui ne se faisait pas. Et je pense que pour elle, c'était une bouffée d'air frais. Il y avait le courrier des lectrices.
C'était son évasion ?
Oui, je pense. Oh oui, une de ses rares évasions. Le courrier des lectrices, tu sais, c'est important. Tu sais, quand j'y pense, c'est très émouvant, hein, ces revues où les femmes s'expriment. Ma grand-mère n'avait pas beaucoup d'amis. Et voilà. Et alors, il y avait des collections. Alors, notamment, donc moi, j'ai adoré, je ne sais pas si ça dira quelque chose aux auditeurs, parce que c'est vieux, les Brigitte. Alors, tu avais Brigitte jeune femme, Brigitte mariée, Brigitte avec un enfant, avec deux enfants. Tu vois, c'était Berthe Bernage. Alors, évidemment, tu n'avais pas... Il y avait à peine un baiser. Enfin, on ne savait pas comment se faisaient les enfants dans ce type d'ouvrage. Mais il y avait... C'était une sorte de... Tu vois, c'était... Après, je me suis renseignée sur cette Berthe Bernage, qui était une vieille fille, qui, elle, avait fait des études de lettres à la Sorbonne et qui vivait... par procuration, je pense, à travers ce personnage, et qu'elle a accompagné mais des années, des décennies. Brigitte est devenue grand-mère, presque arrière-grand-mère, et d'ailleurs ensuite, c'est quelqu'un qui a pris la suite de cette plume, d'un journal qui était censé faire tenir en fait les femmes, tu sais, dans leur foi, dans leur espérance, dans l'endurance de choses pas simples à vivre. Enfin, évidemment, c'était pas vraiment féministe, on peut pas dire.
C'était pas forcément libérateur, quoi. Non. Ça laissait aussi dans un cadre.
Non, je pense qu'il y avait des belges, tu vois, tout ne serait pas du tout à jeter la poubelle, et moi, j'en ai reçu. Je pense d'abord dans le domaine de la foi, et quand même d'un certain bonheur de vivre, d'ardeur à vivre. Ma grand-mère n'était pas quelqu'un de spécialement joyeux. Elle avait perdu son père, tu sais, le fameux forgeron à l'âge de 10 ans. Elle était fille unique. Et d'ailleurs, elle disait, tu sais, on n'est pas vraiment sur Terre pour être heureux. Tu vois, le type quand même de théologie.
Oui, il y avait l'âpreté, il faut souffrir.
Absolument, absolument.
Quelque chose de cet ordre-là.
Et en fait, quand même, dans ces bouquins qu'elle lisait et qu'ensuite elle m'a fait lire, et que j'ai toujours...
Elle y trouvait sa légèreté, sa joie peut-être.
Moi je pense qu'effectivement il y avait une forme de joie, d'humour aussi dans ces livres. Voilà un petit peu pour cette partie dont j'ai hérité, je suis sûre. Alors après, parce que tu comprends, c'est ma grand-mère, donc elle a transmis à ma mère. Bon, ma mère a lu beaucoup plus, et ma mère lisait Pierre Loti. Zola et d'autres. Voilà. Et ma mère, d'ailleurs, est devenue à son tour institutrice. Mais tu vois, il y a quand même il y a eu quelque chose par cette... En plus, nous sommes toutes les trois des aînés.
Oui, ça, c'est assez émouvant. C'est une lignée. Ta maman fait partie de cette ligne. Il n'y a pas eu transmission sans cette étape-là. Mais ça vient de ta
Absolument.
Grand-mère. Et tu sens que ton lien au texte, oui. à la littérature, vient d'elle. Ça m'intéresse, les petites choses qu'elle découpait, les petites citations, les petites phrases un peu cathédrales. Elle les affichait comme ça. Tu as des souvenirs comme ça de ce qui était marqué d'une phrase en
malheureusement,
particulier
non. Malheureusement, non. Mais tu vois, il faudrait que je regarde... Je sais qu'en tout cas, c'était toujours des citations qui allaient encourager l'espérance. Tu vois, ça aurait pu être une phrase d'Éluard, c'est la nuit, qu'il est beau de croire à la lumière, où il y a toujours au bout du chemin, voilà, une porte, quelque chose, des phrases qui exprimaient une traversée, quelque chose qui était lié à l'espérance. C'est
contradictoire à ce que tu disais sur l'absence de joie, l'âpreté.
Pas du tout. C'est pas du tout contradictoire. Au contraire, tu vois. Enfin, je crois pas, justement.
Oui, je voulais dire qu'il y avait, il y a les deux versants. Et justement, la littérature apportait cette lumière, cet espoir. Peut-être.
En tout cas, c'est vrai. Moi, ça m'a fait... Ce qu'elle m'a donné, c'est que, en tout cas, et je le répète, hein, dans le contexte qui était le sien, quand tu vois, moi, après, ce qui s'est passé pour moi, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai amplifié, qui s'est amplifié de génération en génération. Elle m'a transmis que c'était bon, que c'était quelque chose de beau, que c'était une porte ouverte sur le monde, que ça nous aidait à vivre. Ça, pour moi, c'est très important. Et moi qui m'intéresse à Camus, Camus disait, une grande œuvre, c'est une œuvre qui aide à vivre. Tu vois, je vois d'où ça vient. Que la littérature, elle est liée à ta vie. C'est pas quelque chose d'intellectuel qui ne te concerne pas. Et ma grand-mère, je l'ai vue vraiment à travers elle, ce qui était, bon, pour elle, son rapport au texte, tu vois. Que c'était une manne, que c'était une nourriture, que c'était un pain quotidien. Vraiment, c'était très important pour elle. Oui.
Là, tu as merveilleusement exprimé le rôle de la littérature et je le reçois aussi. Je reçois aussi les textes comme ça, donc je comprends tout à fait, je ne vais pas en rajouter. Il y a Aline, mais il y a aussi l'autre grand-mère dont on a prononcé le prénom tout à l'heure,
oui.
Fatima.
Tout à fait. Alors elle venait d'autres horizons.
On sent déjà qu'il y a une traversée là, vers un ailleurs, rien qu'avec ce prénom. Parle-nous d'elle un peu, même si tu ne l'as pas connue.
Oui, je ne l'ai pas connue, effectivement. Elle est plutôt présente, très présente quelque part par son absence, puisque c'est une jeune femme d'Algérie, de Sétif. C'est la mère de mon père. Qui est morte en mettant au monde le troisième enfant de cette famille. Et donc, effectivement, c'est un... Tu sais, j'ai toujours... Alors, il faut dire aussi que mon père n'a pas de photo de sa mère, ce qui d'ailleurs est difficile pour lui, même encore à son âge. Et cette grand-mère, je pense qu'elle est peut-être morte à l'âge de 20 ans, parce que tu sais, les jeunes femmes se mariaient très tôt. Et bon... Puis en plus, mourir en couche, à cette période, on imagine que ça n'a pas dû être facile, en plus. Hein. Donc, écoute, je sais très peu de choses. Bon, quand peut-être un jour, mon père m'avait dit... tu sais, il y avait des cousines plus âgées qui ont après... Bon, et qui avaient dit, quand il m'avait vu beaucoup plus tard, que je ressemblais à ma grand-mère. Mais bon, tu sais, parfois, pour faire plaisir aussi, une jeune femme assez joyeuse, ça j'avais... Avec des nattes, tu vois, j'ai vraiment des toutes petites choses à dire sur elle. Mais voilà, mais comme je le dis, c'est pas parce que j'ai pas eu la chance de la connaître qu'elle ne m'habite pas.
C'est ton lien aussi à ce pays, à l'Algérie.
Absolument.
Tu es retourné là-bas, il y a une partie de la famille.
Alors la famille, tu vois, elle est très petite puisque, bon... En fait, mon père est venu assez tôt en France et puis sa sœur était déjà en France. Donc, ils n'étaient que deux enfants. Mais oui, ça, c'est aussi c'est mon lien. Bon, même si moi, je suis née à Lorient, puisque mes parents se sont rencontrés, ont vécu, vivent toujours dans la région de Lorient. C'est sûr que j'ai un attachement à la Méditerranée, à l'Algérie. Ce n'est pas pour rien si après, je me suis spécialisée sur Albert Camus.
Donc, ça vient de là
Absolument.
Sens que ça vient de là,
absolument.
Ton attrait pour Camus pour le...
Absolument, oui, parce que tu sais, mes premiers textes que j'ai lus sont liés à... C'est justement, c'est quelqu'un qui a su décrire ce pays de mes ancêtres paternels et qui en a tellement bien parlé, avec tellement de ferveur, de sensualité. C'est sûr que c'est évident.
Ça a ouvert quelque chose, toi, sur ton histoire liée à cette partie-là.
Absolument, ouais. Et à cette grand-mère qui est bien... Oui, tu vois, je peux pas beaucoup en parler, j'en suis beaucoup réduite à des suppositions, mais elle est présente en moi au même titre que ma grand-mère Aline avec qui j'ai quand même beaucoup de souvenirs, hein, et de vie partagée, mais les deux sont là, ouais.
Tu sens qu'il y a une convocation parfois, elles sont là très présentes, c'est quotidien, c'est des petits souvenirs. De quelle manière elles sont là ?
Écoute, oui, tu sais, ma grand-mère Aline, enfin, ma grand-mère Roblin, c'est comme ça qu'on l'appelait d'ailleurs. Tu sais, elle aimait beaucoup les petits-enfants, elle les appelait tout mignons. Et maintenant que moi aussi, je suis une grand-mère, je repense à ces expressions...
Tout mignon.
Elle était très touchée par. Je pense à mes petites cousines, enfin, tu vois, qui sont nées beaucoup plus tard que moi. Et je l'ai vue comme ça. Sa foi. Tu sais, j'allais avec elle. Ça aussi, c'est quelque chose. Elle s'occupait d'une petite chapelle dans sa rue. Et elle allait préparer les habits du prêtre. Et tu vois, préparer l'autel. Et tu vois, elle aimait beaucoup Bernadette de Lourdes. Donc, il y avait une statue de Bernadette. Donc, tu vois, ce travail, c'était vraiment une femme de l'ombre, ma grand-mère. Pas du tout, vraiment. Tu vois, elle faisait ça très discrètement. Je pense qu'elle était timide aussi. On faisait toujours une prière à Bernadette. Tu sais, Bernadette, c'est une petite sainte très humble. Et c'était sa sainte préférée. Bernadette, tu sais, c'est celle qui a dit... Voilà, quand on a besoin de moi, comme d'un balai, tu sais, puis quand on a fini de m'utiliser, on remet le balai à sa place. Enfin, c'était ça. Et ma grand-mère avait, toi, cette fidélité aussi dans le temps à ce service, quoi. Hein.
On repense aux saintes d'église de Pierre Loti, ouais. qui compare cette femme dont on parlait au début de l'émission. Anne, c'est déjà l'heure de clôturer cette conversation. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci beaucoup, Valentin. C'est très émouvant de se remémorer. Et tu sais, c'est que le début. J'ai l'impression que ça ouvre une...
Bon, je pense qu'on pourrait continuer quelques heures. C'est une boîte infinie, quoi, sans fond.
Absolument. Quelle bonne idée. Ouais.
Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. Et on se quitte, comme d'habitude, en littérature avec un texte choisi et lu par notre invitée, Anne Proutot. Un texte d'Albert Camus.
Donc j'ai choisi un texte que j'aime beaucoup de Camus. C'est un essai qui s'appelle « L'été » qui est paru en 1954. Vous pouvez le retrouver dans une édition folio qui s'appelle « Noces » qui est l'essai de 39 suivi de « L'été », les deux ensemble, je vous les recommande. Et là on est à Tipaza, justement Tipaza, un lieu où j'ai eu la chance d'aller à 60 km d'Alger, ruine romaine qui plonge dans la Méditerranée. Et ce texte est un retour à Tipaza. Et Camus revient après bien des vicissitudes de la vie sur le continent, à la métropole, n'a pas toujours été facile. Et il revient à Tipaza. Et voilà ce qu'il écrit. Je redécouvrais à Tipaza qu'il fallait garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours, dans une lumière toujours neuve. Ô lumière, c'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre, je le savais maintenant, au milieu de l'hiver. J'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible.